La nouveauté rock française avec Chris.
Bienvenue à toutes et tous dans ce hors-série numéro 12 de la nouveauté rock française sur Restless consacrée à Restop. J'ai le plaisir de recevoir
Hugo,
Simon
et Hippolyte,
membres de Restop, en amont de votre concert de ce soir à la Mécanique Ondulatoire pour la release partie parisienne de votre premier album
Real Sensation.
C'est bien, vous ne l'avez pas oublié, hein, pas encore.
Non,
pas.
C'est bon, on s'en souvient.
Bon, comment allez-vous ?
Super, et toi ?
Ah, moi très bien. Très bien, je suis content de vous voir pour la première fois sur scène. Et puis bon, je vous ai déjà un petit peu découvert avant. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon on n'aurait pas de matière à échanger. Donc vous allez très très bien, vous êtes en forme ?
Ouais, carrément, on a hâte. Ouais. Ça fait longtemps qu'on attend ça.
Vous êtes préparé physiquement ?
Pas tellement, non, je crois pas.
On va faire les montées de genoux et les talons fesses là après.
Ouais. Oui.
Puis voilà quoi.
Bon, c'est cool. Bon, après pour les Jeux Olympiques quasiment. Bon. Restop, c'est un trio originaire d'Angers, formé en 2021.
C'est ça.
Donc vous composez de Simon au chant et à la guitare.
C'est ça.
Ok. Hippolyta.
La basse.
Et Hugo.
À la batterie.
D'accord. Vous n'avez jamais interchangé, hein, vous êtes toujours resté.
Ouais, on est toujours resté tous les trois, fidèles à nos postes, comme on dit.
D'accord. Et ça vous est jamais venu l'idée de changer en plein concert
Au début, on a essayé d'avoir un deuxième guitariste, ça a duré deux heures à l'affaire, et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, on voulait rester tous les trois.
Ouais. C'est bien. Donc, comme trois doigts de la main.
Ouais, c'est comme les trois doigts de la main, c'est parfait.
C'est parfait. À l'origine du nom du groupe, il apparaît que celui-ci a été choisi au feeling parce qu'il sonne bien, d'après ce que j'ai compris. Moins allergène qu'un Roundup, je cite. Cela va sans dire. Pour autant, Restop reste bien une illusion d'optique. Et donc, votre musique est-elle reposante ?
Reposante, elle peut, je pense.
Elle doit faire du bien à notre inconscient, à nous, je pense.
Ouais.
Pour ça qu'elle nous repose, peut-être, c'est peut-être ça qu'on va dire.
Mais en vrai si, il y a une partie de Restop qui est pas du tout reposante et du coup notre nom concorde plus du tout. Et puis une autre partie de Restop qui est très calme aussi, on aime bien faire un peu de tout, donc pourquoi pas. 50% de la discographie, on va dire.
Et en dehors de la scène, est-ce que vous avez la réputation d'être dissipé, remuant, vous êtes plutôt calme, reposant, qu'est-ce qu'on dit de vous ?
Je crois qu'on est dissipé, je pense.
Ça dépend si on est tous les trois ou si on est séparés.
Ouais, c'est ça. Du moins dans l'équipe, souvent on n'hésite pas à nous reprendre. En mode bon, les gars, on va peut-être se calmer un peu. Ok.
Je comprends. Donc ce soir, au retour de la chambre Ritz, vous allez retourner la chambre comme les Rolling Stones.
On va dire notre propre chambre, du coup, au final.
Bon, sinon, Simon, l'autre nom qui aurait pu remplacer Restop, ça aurait été quel nom ?
Restdown.
Ça aurait pu être Châteauroux.
Châteauroux ?
Ouais.
Pourquoi ?
Non, en vrai, on a tout de suite décidé ça. Je sais plus comment c'était venu vraiment, mais je crois que j'avais fait un dessin sur mon téléphone. On était assis, il était tard le soir, et on a gardé ce truc-là. C'est resté, quoi.
D'accord.
On voulait que ça sonnait bien, et on n'a jamais cherché beaucoup plus loin que ça, je crois.
Et tu te souviens ?
On a regardé s'il y en avait d'autres qui s'appelaient comme nous, pour être sûr de pas faire de doublons, quoi.
Ouais.
Mais
y a pas un possible mythique morceau de Boy Pablo ? Y a pas grand-chose d'autre qui s'appelle Restop.
D'accord, et tu te souviens de l'heure précise, du jour précis où le nom a été décidé ?
Alors le jour précis c'était le 12 décembre 2021. Si. Non. Ouais, 12 décembre je crois. Donc on avait choisi ça.
J'ai arrêté la fac 12 décembre, ça marche pas. On était au début, c'était.
Ouais, un truc comme
c'était
ça.
Avant qu'on joue de la musique, ouais, en plus.
En gros, ouais. C'est vrai qu'à la base on avait monté un compte Instagram, on postait plus des vidéos de nous au bar qu'en répète, quoi, mais. Mais ouais, après on a commencé à faire de la musique. En fait, l'amitié s'est vraiment construite autour du projet en même temps qu'on l'a commencé, quoi.
D'accord. Ça signifie qu'avant vous étiez amis, relation, pas du tout ?
Avec Hugo, on se connaissait du lycée, on s'était rapprochés sur la fin. On partait en études sup ensemble en fac de musicologie. On a duré 2 mois, mais du coup, au début, on a rencontré Simon une soirée en ville à Angers.
Ah oui, parce que en fait, Hugo, c'est le seul qui a fait le conservatoire, c'est ça, hein.
Alors, les gars l'ont fait, hein.
Moi je l'ai fait 3 ans mollement et Simon l'a fait 6 mois mollement.
Ouais, j'y suis allé 3 fois officiellement.
Moi j'ai pas beaucoup été en cours, ouais. On avait la malédiction avec Hugo d'abandonner l'histoire d'aller en cours à partir du moment où on rentrait dans l'ascenseur. Ouais. On préférait aller manger des goûters et écouter de la musique dans le camion.
J'ai fait le conservatoire, on va dire que j'étais plutôt un cancre. En vrai. Enfin, je sais que j'y allais pas souvent, j'allais que au cours où on jouait, quoi. Surtout que je suis rentré en, dans un cursus diplômant au conservatoire en même temps que le rest-up, ça commence vraiment. Du coup, j'ai un peu vite choisi ce que je voulais faire, mais je suis quand même allé jusqu'au diplôme.
Sans passer.
Et j'ai eu les examens auxquels je suis allé, ce qui est déjà pas mal.
Alors côté disco, alors bravo hein, pour ce parcours quand même, hein, ça a salué, bon, voilà. Est-ce que tu en parles beaucoup autour de toi?
De ça?
De ce parcours.
J'aime bien dire d'où je viens, ouais. D'où vient ma batterie quand on me demande pourquoi tu joues comme ça.
Ça, faut toujours être fier de ce que l'on fait.
Ouais, et puis moi c'est le du coup j'ai fait conservatoire en jazz et le jazz ça reste une des musiques dans laquelle je m'épanouis le mieux. Ouais. Maintenant parce que ça va faire 2-3 ans que j'en ai pas presque pas joué du coup, mais je sais que ça a tendance à pas mal me manquer souvent.
Ah, ça c'est un message.
Non. Ah, peut-être qu'on fasse du jazz.
Non, c'est pas un message parce que justement c'est là avec Restup j'arrive à trouver les deux énergies qui me conviennent et j'arrive à essayer de construire des choses qui me plaisent et qui me rappellent aussi ça. Je suis content parce que les gars ils me laissent quand même pas mal de liberté, je crois, dans la compo.
Et oui.
Alors, côté discographie, on a un premier EP, Where is Jackson, sorti en 2022.
Ouais. Exact.
Alors, ce Jackson, est-ce que c'est le quatrième membre du groupe?
Au début, on a essayé de créer une histoire et après, on s'est vite rendu compte que... C'était bif bof, du coup officiellement Jackson c'est un mec dans un clip et il s'appelle Jules. En vrai, c'est tout. C'est juste un pote à nous, on s'est dit ouais on va faire un espèce de personnage et en fait on s'est vite dit que ça servait à rien de créer une espèce d'histoire, que c'était plus simple si c'était plus s'il n'y avait pas d'histoire secondaire, quoi, si c'était plus naturel.
D'ailleurs, est-ce qu'il vous est venu l'idée un jour de passer en mode quatuor ou encore de faire entrer un autre instrument dans votre trio?
On en a plutôt discuté quelques fois, on se dit tiens, pourquoi pas, mais en vrai, je crois que l'énergie, elle marche vraiment à trois. On a Louis, un très bon copain qui fait du sac, on s'est dit tiens, ce serait cool de faire quelques petits trucs avec lui et tout. Ouais. Mais je pense que l'idée d'un quatrième membre, du moins pour l'instant dans nos têtes, elle va pas plus loin qu'un concert, un guest sur un morceau ou alors en studio. Des petits as de sac, de machin, des faits, mais ouais, à 3, pour l'instant, on s'entend très bien à 3, donc on voit vraiment pas l'utilité de rajouter quelque chose.
D'accord, donc pour l'instant, c'est 3 et c'est pas longtemps.
Pas la place sur scène, là, ce soir, ce serait chiant, quoi. Après, question logistique.
Alors, ce premier EP, on peut voir une basse qui est très présente, avec une brume insolente. Je trouve qu'il y a un peu côté Doors, Death From Above, un peu de Stray Cats aussi, je trouve. Vos influences ascendantes, quelles sont-elles? Dans quelle aura musicale vous avez baigné votre enfance?
Pour ma part, c'était globalement pop-rock anglais, avec des groupes comme les Smiths, Oasis, j'allais dire, mais même pas trop, en vrai. Après, il y a tous les Pixies, les classiques. On passe aussi par Bruce Springsteen, The Hives et plein de groupes plus récents aussi. Des groupes des Inrock. Des Inrock et de Bernard Lenoir, je crois que c'est ça. Voilà.
En vrai, la musique sur laquelle on s'accorde, je crois, c'est la scène plutôt anglaise actuelle. Type Idols, tout ça, tout ce qui découle de tout ce style-là. Mais enfant, moi, j'ai baigné dans Pink Floyd. J'ai baigné dans plein de trucs, mais surtout, ouais, en fait, la musique, même du jazz fusion, je sais pas, Mars Attack, des. Je sais pas, Portishead, par exemple, et aussi Radiohead, beaucoup, beaucoup Radiohead et tout. Ça, c'est une influence qu'on a tous les trois, je crois.
Ouais, moi, quand j'étais petit, j'écoutais du Soprano, du Martin Garrix. En vrai, généralement, les compilations Energy, je me rappelle de la compilation Energy Hit 2012.
Ouais, je l'ai aussi.
C'était le CD avec les 4 disques.
Et ouais, les musicaux, hein. Ouais. Il y avait Will.i.am.
Il y avait Will.i.am dedans.
Beyoncé, ouais, il était super.
J'écoutais beaucoup ça. Après, sinon, mon père, lui, grand fan des Fatal Picard, je sais que j'ai beaucoup écouté ça dans la voiture. Il y a eu pas mal de Metallica et après, sinon, beaucoup de pas mal de rap français aussi. Je sais que j'écoutais beaucoup de NTM et de IAM en voiture. Mmh. Et un des premiers CD que j'ai reçu, c'était un album de Sean Paul.
Oh voilà.
Ouais. En gros. C'était à peu près mon enfance et mon père était un grand fan de Metallica aussi. Voilà.
Justement, tu parles de ton papa. Votre entourage, est-ce qu'il joue un rôle prépondérant? Est-ce qu'il vous accompagne? Est-ce qu'il vient vous voir en concert?
Oh là là, bah son papa en particulier et sa maman, bien sûr.
Ouais. Mon papa, il like toutes les stories. De tout le monde, de tout notre entourage, tout l'entourage de taf, il like tout.
Il aime bien, et il vient en tongue à chaque concert aussi.
Ouais, non, et puis il est là tout le temps, et puis au-delà de ça, je sais que c'est mes parents qui. On tourne avec un van, et en fait, c'est le van de mes parents. qui m'ont gentiment
laissé,
on va dire laissé en fait depuis
légué
3 ans depuis 3 ans on va dire que c'est
et puis
c'est
le globalement bien, globalement je crois que nos parents, on a de la chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus et qui nous ont directement dit on vous suit, qui ont été présents aussi, qui sont venus nous voir à des concerts et voilà quoi, on a de la chance là-dessus je crois, ils ont été très soutenants ouais. Et encore maintenant ils le sont quoi.
Moi je sais que mon père là il a particulièrement les boules parce qu'il est obligé d'aller bosser à Rouen, sinon il aurait fait les 3h30 de route pour venir ici voilà, il aime bien faire ça, ce que je comprends.
Alors on a un deuxième EP bon, qui est venu après, It Was Summer, un EP qui entre en matière, qui nous submerge, Lullaby Submerge, un très beau nom pour un titre, il est caressant comme la composition d'ailleurs, un EP qui explorait déjà de nouvelles possibilités musicales et sensationnelles, il est un tant soit peu très révélateur de votre potentiel et traduit déjà une certaine maturité, The Psychotic Monks mais aussi Phase, côté scène rock française, peuvent trouver écho dans Les Six Pistes, un rendu qui paraît inclassable, pétri de loops, de variations, d'accords, de sensibilités diverses. Où puisez-vous votre inspiration?
En vrai, notre inspiration, elle vient surtout en jamant, je crois. On teste des trucs, on se foire, des fois c'est bien, et puis on garde ça. En fait, on a une composition qui est assez simple dans le sens où nous, en fait, on fonce un peu tête baissée dans les idées. On part du principe que souvent la première idée c'est la bonne. Ou du moins essayer de rajouter le moins de fioritures possible.
Ouais.
Mais ouais, dans tous les cas, notre inspiration, elle vient surtout de ce qu'on vit, je pense, ensemble, ouais, vu que le projet s'est construit autour de ça.
Parce qu'on écoute aussi, forcément, tu parlais de Psychotic Monks, je sais que c'est une période où on était beaucoup à écouter ça. C'est notamment eux qui nous ont donné l'idée, on va dire, enfin, leur travail, qui nous ont donné l'idée de contacter Daniel Fox pour mixer cette EP-là. Et après, donc, il se trouve qu'on a enregistré l'album avec lui, mais il y avait un truc qui nous fascinait chez les Psychotic Monks, c'était d'aller au bout d'une intention, quoi. Si on doit aller calme, on va au plus calme, et si on doit aller au plus loin, on va au plus loin, quoi. On était très inspirés par ça, je sais qu'à ce moment, c'était assez marquant. Voilà.
Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les compositions, leur teneur, leur intensité et le choix des titres? Est-ce que vous y revenez plusieurs fois, ou alors ça part tout de suite?
En fait, il y a souvent une première composition. Et en fait, dès qu'on a un semblant de morceau, en fait, on va directement le jouer en live, généralement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on faisait à cette période-là. Surtout, dès qu'on avait un nouveau morceau, on voulait à tout prix le rentrer dans notre setlist. Et en fait, comme ça, après, à force de les jouer peut-être 10-15 fois, après, on revient dessus dans une autre phase de travail. Et on se rend compte des choses qu'on pourrait modifier, comment les purer, comment... Enfin, de trouver des clés pour qu'il soit cool pour nous, quoi. Ouais, le rendre plus juste aussi. Après, en fait, c'est un moment où on se cherchait encore au niveau de la justesse en composition. Il y a encore pas mal d'idées qui... Il y a pas mal d'idées qui étaient un peu dans tous les sens encore. Mais déjà moins que dans le premier. Et on trouvait un peu plus notre son, en tout cas, à ce moment-là.
Alors, quelles sont les conditions idéales pour composer? Quel temps il vous faut? Quel cadre? Quelle envie? C'est quoi le...
Je crois que c'est assez random. En vrai, on a eu beaucoup l'habitude de composer au Shabada. Du coup, là, on répétait quand même, globalement. Après, ça part souvent d'une petite idée qu'on vient agrémenter d'autres choses. Ou alors, des fois, juste en jamant. J'aime bien dire ça. Il y a beaucoup de morceaux dans l'album, par exemple, qui sont des accidents un peu... un test de pédale qui fait qu'on trouve un son qui est cool et on en fait un morceau. Ou je sais pas, un petit riff qu'on joue comme ça en s'accordant et au final ça devient un morceau, enfin c'est des trucs comme ça, mais autrement ouais, y a pas particulièrement d'endroit ou de manière de composer, ça se fait sur le tard et souvent c'est assez efficace. En plus je trouve que ça coule assez de source, on a cette chance là on est souvent d'accord, on a très peu de différents, ou alors si souvent on en a, c'est parce qu'on se comprend pas alors qu'on dit la même chose, on n'utilise pas juste les mêmes mots, mais globalement on est assez d'accord sur ce qu'on veut faire, je crois.
D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de s'isoler, de trouver en fait un studio d'enregistrement loin dans la campagne, où vous pouvez enregistrer n'importe où, réfléchir n'importe où.
Bah ouais, c'est ça. Par exemple, là, le fait d'être allé enregistrer en Angleterre, c'était bien pour ça, parce qu'on était loin de tout ce qu'on connaissait, dans un endroit qui était franchement cool. En vrai, le studio, on sort du studio, on avait vu sur la mer direct, quoi, sur la plage. Enfin, franchement, je trouve ça bien de se mettre dans des cadres un peu incongrus pour composer. Personnellement, après, on a quand même eu l'habitude à 99% du temps de composer dans des salles de répète classiques, parce que on pouvait pas forcément répéter depuis chez nous, mais franchement on s'adapte quoi.
Et puis sinon c'est beaucoup de la réécoute aussi. Enfin on enregistre directement avec notre téléphone en fait les compos. Et en fait on, enfin moi je sais que perso je suis un peu têtu à chaque fois. Enfin j'écoute beaucoup un truc qu'on vient d'enregistrer. Et du coup ça permet aussi de voir directement qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en petite modification, etc. quoi.
Alors ce soir, bon, la méca, la release, on fête l'arrivée de ce premier album, Real Sensation. Bon, un premier album qui a été enregistré avec Daniel Fox, bassiste de Longilla Band, à Iceborne, dans le studio.
Où a été enregistré le dernier album des Lambrini Girls.
Ecozoo, une collaboration. Ecozoo, ouais. Voilà, Ecozoo. Une collaboration qui s'est faite par volonté, par hasard, ou comment ça s'est passé?
Par volonté.
Ça s'est fait carrément par volonté en fait, ouais, on avait eu contact avec Daniel Fox au deuxième EP pour qu'il mixe le projet. Et en fait après on s'est dit bah autant pousser le rêve au max, et on a toujours voulu nous se rapprocher de la scène anglaise, du moins anglo-saxonne. Et c'est plus ou moins la musique qui nous a toujours bercé, surtout avec Hippo je crois. Et puis en fait après de par son travail, nous on était très fans de Daniel Fox, etc. Donc c'était ça coulait de source en fait d'aller en Angleterre, de concrétiser le rêve une bonne fois pour toutes. Et puis du coup on est super content d'avoir fait ça quoi, parce que ça nous a fait nous développer, même nous la manière de voir notre propre musique quoi, ça a changé beaucoup de choses, donc c'était trop bien.
C'est une approche plus professionnelle.
Ouais carrément, et puis il y avait vraiment aussi un travail de production qui a été fait par Daniel Fox. On s'attendait à la base à ce qu'il vienne, qu'il fasse son boulot, qu'il nous règle parce qu'on est un petit groupe, etc. Mais au final il a vraiment pris le projet à cœur, et à tel point que des fois il revenait le lendemain matin nous disant j'ai pas dormi de la nuit, j'ai écrit plein de trucs dans mon carnet,
on va faire ça et ça.
Et il avait plein d'idées tout le temps, il ramenait plein de nouveaux objets dans la. Enfin plein de nouveaux trucs pour enregistrer et tout. Enfin franchement c'était une pure expérience quoi.
Alors, en amont de cet album, après avoir souffert en silence, peut-être affronté de parfaits mensonges, être à présent nostalgique de l'été passé, comment Restop se ressent avant d'aborder la création de ce premier album? En fait, dans quel état d'esprit vous l'avez abordé? Vous étiez apaisé, enragé, heureux, malheureux, désespéré, optimiste?
Alors, en vrai, il y avait un peu de tout, mais je pense que c'était quand même beaucoup plus apaisé, parce que... Bah rien que dans le mood général, et par exemple bah dans mes textes je sais que c'est beaucoup plus éclairé que ce que j'ai pu écrire auparavant. Et même dans la composition on a essayé d'aller quand même au plus simple, on a essayé de changer notre manière de composer, ouais. Aussi de composer beaucoup plus autour du son que autour de la composition elle-même.
D'une idée là où avant on aimait bien se dire bon bah là on a telle idée c'est cool, on peut faire une partie, deux parties sur cette idée, puis après on aimait bien casser, partir sur autre chose. Là on s'est dit que c'était cool si on pouvait garder une idée et garder l'intention pure, et typiquement Weekend Girlfriend il illustre très bien ça. Il y a une idée, il y a deux parties, il y en a une qui explose, l'autre qui revient plus calme, et on aimait bien cette idée là et le premier morceau qu'on ait composé après l'album c'est Accutane. Et ce morceau aussi est bien représentatif de cette nouvelle approche de tiens on va prendre un son et ça va être plus mécanique, voilà.
Et justement ces sensations, vos sensations, est-ce qu'elles sont plus intérieur, plus personnel, ou est-ce que ce sont des sensations que vous décrivez comme celles qui vous relient à votre entourage, au monde qui vous entoure?
C'est un peu un mélange de tout ça. En vrai, Real Sensation, c'est venu vraiment de... En fait, c'était histoire de faire un état de lieu de tout ce qu'on avait pu vivre jusqu'à présent. Sachant que bah personnellement moi je sortais d'une période où c'était compliqué et du coup je voyais le truc beaucoup plus éclairé, donc j'avais envie de parler de tout ça, de en fait que ça soit en bien ou en mal, toutes les expériences qu'on vit elles nous construisent comme on est aujourd'hui quoi, et on peut que être reconnaissant de ça je trouve. C'est surtout pour ça que j'avais avancé l'idée de Real Sensations pour l'album, parce que c'est ça, c'est un peu, on le dit souvent, mais c'est ce côté exutoire de pour nous la musique, je pense que c'est y a un côté thérapeutique dont on en fera toujours je pense, et on aime bien être ensemble, se défouler, faire de la musique, et ça vient aussi d'ici quoi. C'est un peu lâcher les chevaux et laisser toutes les émotions qui te construisent.
Sachant que le vrai moment d'apaisement à chaque fois, je sais que c'est pour moi le cas et je crois que c'est plutôt vrai pour nous trois, le vrai moment d'apaisement à chaque fois c'est quand on est en concert. Justement, ouais. C'est de pouvoir jouer typiquement comme ce soir, quand on, déjà d'être là c'est toujours cool, et de vraiment au moment où on joue c'est en mode ah c'est pour ça qu'on le fait quoi, et ouais. C'est trop bien.
Et même des fois quand forcément c'est pas forcément toujours de l'apaisement, mais en tout cas c'est le moment où je pense on a le pic, un pic émotionnel quoi, c'est là où on a vraiment l'impression de vivre la musique qu'on fait quoi à 100%. On prendra jamais autant notre pied je pense en studio que de faire un concert n'importe où quoi.
Ouais.
Vous avez la chance et le talent de l'exprimer en musique, mais si vous aviez d'autres possibilités artistiques, ce que vous faites là, vous le feriez dans quel autre art?
Je pense dans le cinéma, moi, parce que je trouve qu'on a une musique qui est très cinématographique, et à chaque fois que personnellement je compose ou qu'on compose ensemble et que j'écris des textes, j'ai toujours beaucoup d'images qui me viennent en tête, et je pense des fois même à des clips ou à des images avant même de penser au texte. C'était surtout le cas en vrai dans le dernier album là, enfin dans notre premier album, mais dans le dernier rec qu'on a fait, quoi. La plupart des textes me sont venus via des images en fait, et encore maintenant quand on continue à composer, ça vient toujours comme ça, quoi.
Transition toute trouvée à propos de l'artwork. Ouais. Voilà, comment on peut traduire cet artwork par rapport à l'album, par rapport au titre de l'album?
C'est Il se complète parce que en fait sur l'EP précédent c'était Ivan Vassili Chamaillard qui avait fait la pochette, et là du coup on a refait appel à lui, mais en faisant appel aussi à Marie Le Sieur pour qui sont deux copains, quoi, pour travailler dessus. On avait cette envie un peu, elle nous plaisait l'idée de la construction de la pochette de It Was Summer, mais on avait justement envie de quelque chose de plus éclairé, plus coloré, un peu à l'image finalement de ces nouvelles compositions qui étaient plus éclairées, plus apaisées. Moins sombre, quoi, peut-être.
Ouais, et puis il y avait aussi ce truc de, en fait, la pochette à la base, toutes les formes qu'on voit, c'est que des photos qui ont été modifiées, retravaillées, réimprimées, retransférées sur différents supports. Et en fait, c'était aussi histoire de faire un espèce d'écho à ça, de tout ce qui nous a construit jusqu'à présent. Donc en fait, c'est plein de photos du studio, de souvenirs entre amis, de souvenirs de concerts, qu'on est venu retravailler, qu'on est venu mélanger. Et en fait, ça crée un melting pot de tout ça, du coup, de tout ce qui nous a construit aussi. Et on voulait faire hommage à ça aussi en images et pas que en musique, quoi.
Ouais.
Et je pense même que du coup d'avoir bossé avec Marie par exemple, elle a aussi bossé sur tout le design graphique en fait, même du vinyle, enfin en tout cas du projet en général, en plus de la pochette. Et en fait avec Ivan, les deux, c'est, je pense que ça fait partie des gens qui connaissent le mieux notre musique aussi, parce que dans notre amitié, etc., ils nous voient en concert depuis le tout début. Et du coup ça paraissait un peu logique de... Je pense que c'était sûrement les personnes qui pouvaient le mieux retranscrire, en tout cas avec leur art, ce qu'on voulait exprimer avec l'album, quoi.
Complètement.
Et justement, si on rentre dans cet album, dans ces 11 volets, alors ces 11, c'était un choix, ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 12.
À la base, c'était 10, ouais. Et il y a une interlude qui s'est immiscée là-dedans, en studio, pour le coup. Ça, c'est vraiment une création du studio.
Improvisé, pour le coup.
Ça s'est fait sur le moment, ouais, cette interlude là, c'était surtout Hugo et Daniel Fox en fait.
Ouais.
C'était une idée de base d'Hugo qu'il avait déjà enregistré avec différents projets, notamment un projet beaucoup plus jazz et tout. Et en fait on a retranscrit ça tous ensemble. Et Daniel Fox d'ailleurs a beaucoup participé à ce morceau parce qu'il a carrément en fait joué limite dessus. Ouais. C'est plus un featuring presque en fait avec Daniel Fox, ce morceau là. Il est né comme ça un peu. On se disait, on a besoin d'un 11e morceau. Ils ont jamais, et c'est venu tout seul, quoi.
Ouais, moi j'avais une idée hyper floue et j'allais voir Daniel Fox en mode ouais, on va faire ça, on va faire ça. Il me regardait, il faisait ok, ouais. En gros, il me comprenait pas et moi je comprenais pas non plus ce que je voulais lui dire. Et du coup, à un moment, on s'est posé, on a posé les idées et à chaque fois c'était du deux prises. Et c'était. Enfin, c'est un peu, je trouve que cette interlude elle a un peu l'esprit de l'album, dans le sens où c'est un patchwork. Et en fait, comme la pochette, j'ai empilé plusieurs éléments dessus, quoi. C'est pas. Chaque élément se répond, mais il n'y a aucun des éléments qui est fait à la base pour répondre à un autre, quoi.
Effectivement, ce côté patchwork, on le retrouve effectivement, même dans la progression du groupe, à travers le premier EP, le deuxième EP. Ce troisième opus, qui est un album, n'est pas forcément identique au premier et au deuxième, notamment par rapport à la composition, enfin les différentes compositions, voire influences, en tout cas ce que vous y mettez avec votre cœur et votre passion. Vous avez effectivement, il y a du jazz, il y a de la fusion, il y a un post-punk aussi. Bon, on voit effectivement, il y a des références sans que ça soit forcément volontaire, des Queen of Stone Age, Idols. Et il y a un côté aussi mat-rock, en fait, où vous avez une décomposition du rythme qui est assez fabuleuse, qui pourrait même vous valoir de vous produire au Post in Paris. Et quand vous avez en fait cette approche du rythme, est-ce que vous décomposez en fait les compositions? Parce qu'il y a des changements de variation, il y a des loopings. Comment ça se passe pour
Je crois qu'à chaque fois en fait, à chaque fois qu'on se retrouve à composer un morceau, on a plusieurs parties qui se dessinent. Et généralement, je pense à des morceaux comme sur l'ancienne EP Tyson Pocket Squares, ou là je pense à un morceau comme Damage par exemple. En fait, on a trois parties différentes et on essaye de Bah justement de les découper, on les enchaîne, vas-y, on peut retrouver ce moment-là. À ce moment-là, c'est plus un vraiment du collage un peu d'idées, mais de juste de trois idées différentes qui se baladent dans le morceau, quoi.
Ouais, ça rentre aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve, de essayer de fidéliser un peu toutes les idées entre elles. Et au lieu d'avoir 10 idées différentes, partir sur des riffs complètement différents, essayer juste de changer par exemple un petit son ou la rythmique, essayer de casser différemment, et c'est ça qui crée la progression aussi, quoi. Au final, puis surtout que en fait, j'ai l'impression que ça se fait aussi naturellement, en fait, comme tout le reste, souvent Hugo il se prend un petit peu la tête sur un pattern. Puis du coup après tout, au début c'est un peu sloppy comme on dit, ça l'engrenage marche pas forcément très bien, et puis au fur et à mesure on trouve nos repères, et puis ça coule tout seul, quoi.
Alors quand j'ai écouté votre album, j'ai été scotché notamment par un titre phare dont on a parlé tout à l'heure, c'est Weekend Girlfriend. Et pour revenir sur ce titre qui est passionnant, qui est un des meilleurs titres de cette année, 2025, avec d'autres titres comme je pense à Les Winter, je ne sais pas si vous connaissez, ou d'autres titres chez Lost Eons, ou le titre de Avalon Bloom qui est de Dove Fall. Cette passion qu'on ressent chez vous, ce côté contre-pied qui peut-être peut surprendre en fait vos fans, parce que on est vraiment complètement surpris, hein, en fait. Il y a une caresse, il y a une wave, il y a un truc qui fait que soit vous êtes amoureux ou alors pas. Il y a peut-être une déception sentimentale. Mais comment vous le ressentez, ce titre, de l'intérieur?
Bah déjà on est tous les trois amoureux, mais surtout je pense que en vrai on a tous les trois été aussi très fans de musique comme on dit émotive. Moi par exemple je suis fan de Imo à la base, je suis fan de King Krul, de projets comme ça où en fait ça chiale dans le micro, quoi. Même Radiohead en vrai au final.
On aime bien le beau qui fait pleurer généralement.
Oui.
Je pense que c'est un des principaux trucs où on se retrouve tous les trois. C'est que on peut rien faire face à un album magnifique. Je pense à par exemple un album de Bill Ryder Jones,
ouais.
Qu'on s'est pris tous les trois de la même manière. Je pense qu'on avait besoin de ressentir ça aussi dans notre musique, et c'est un des premiers morceaux où on se l'est permis, et voilà, quoi.
En fait, ajouter un côté lyrique aussi un petit peu, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais moi j'en parlais, je suis content parce que c'est un morceau. Souvent, dès qu'on se dit tiens, on va faire un morceau calme, en fait, au final, à chaque fois on explosait et on enclenchait toutes les fuzz d'un coup. Donc il avait finalement rien de calme, c'était juste un coup de tonnerre à la fin. Là, c'est le premier morceau où il y a un petit step au refrain et en fait, il reste quand même assez apaisé, quoi.
D'ailleurs, on retrouve aussi un petit peu de ce côté moroc dans Paul's Guitar, avec des influences. Bon, contemporaine, type Caraba, Diamond Dog, mais effectivement, il y a ce côté méandre, tourment existentiel qu'on ressent, d'ailleurs, qu'on a hâte de ressentir une nouvelle fois tout à l'heure sur la scène de la Mecca. Si, côté concert, quelles sont les salles de concert que vous n'avez pas foulées à ce jour, à Paris ou en France, et que vous souhaiteriez fouler pour la première fois?
Qu'on n'a pas
une scène qu'on aimerait bien faire. En vrai, il y en a beaucoup, hein, mais déjà une Cigale ou un Olympia, pourquoi pas, hein.
Voilà, en toute humilité.
En toute humilité. Ouais, une maroquinerie, c'est vrai qu'une maroquinerie, ce serait trop cool.
Tibin, il y en a plein, hein.
Ouais, il y en a beaucoup. Déjà, on fait la boule noire pour le Mama la semaine prochaine.
En fait, le point éphémère, on l'a fait à la fête de la musique. Le refaire sur une soirée, ça serait avec plaisir. Mais ouais, maroquinerie, ouais.
D'avoir enchaîné le temple de Paris.
Autrement, c'est des. Je pense qu'on est tous d'accord pour la salle incroyable qu'on aimerait tous faire, c'est le Windmill à Brixton en Angleterre, ouais. Parce que toutes les vidéos de live qui nous ont fait grandir et qu'on s'est tous mangé lors de soirées mondaines où on graissait jusqu'à 3h du mat à regarder des.
Soirées mondaines,
à regarder des lives sur ma télé.
Et c'était comme ça qu'on avait découvert tous les Black Midi, Black Country New Road, même sur la chaîne de Lou Smith précisément, on peut citer. Et c'est notamment Fat Dog qu'on avait découvert là-dessus, avec quand il y avait encore Plutos Beach.
D'ailleurs, tu parlais de l'Angleterre. Est-ce que vous avez déjà joué à l'international?
Non, pas encore.
Pas encore.
Non, mais ça te serait tardé.
Peut-être.
Vous avez prévu une tournée, peut-être?
Ouais. En vrai, de toute façon, ça va être annoncé dans très peu de temps. Mais oui, on part en tournée en Angleterre fin novembre.
Eh ben, c'est parfait. Bravo, en tout cas.
Merci.
Ah, bravo. J'ai vu donc que les grandes scènes, c'était pas forcément évident à jouer. Est-ce que dernièrement, vous avez dû vous retrouver peut-être en tête d'affiche au dernier moment?
Pas tellement,
pas
non. Tellement.
Pas récemment.
Pas récemment.
C'était il y a l'été dernier, ouais.
Ouais.
Ouais, par contre, c'était. Hein, on s'est retrouvé, ouais, on s'est retrouvé, on a fait un grand chelem il y a 2 ans. On a fait un été de remplacement. En fait, on nous appelait la veille pour le lendemain ou 48 heures à l'avance en nous disant les gars, on a un slot qui vient de sauter, on a vu votre newsletter, est-ce que vous êtes chaud de jouer? On s'est retrouvé à jouer par exemple au Varma en tête d'affiche, on avait 1h10 de set alors qu'on venait de sortir le deuxième EP.
On remplaçait Personal Trainer.
Qui était bien bas, plus connu que nous, quoi. Enfin,
ouais, voilà.
Terrible. C'est une expérience dont vous vous souvenez?
Ouais, carrément, c'était rigolo.
C'est
ça.
Très formateur en vrai. On a dû apprendre à un peu occuper la scène comme on pouvait. C'était ouais. Très très formateur comme date.
Pour autant, vous préférez les petites salles?
Alors, je sais pas si on préfère, c'est que pour l'instant, c'est ce qu'on a plus l'habitude de faire.
Ouais.
Donc, on est forcément plus à l'aise. Mais, et même, il y a une proximité dans les caves, là, comme ce soir. T'es dans le public, quoi. Donc, c'est trop cool. Après là on va par exemple en novembre là on fait le Shabada, ce sera déjà autre chose. C'est une salle qui nous est familière mais pas niveau scène quoi. Pour le coup on n'y a jamais joué.
Le 7 novembre.
C'est la maison mais sans le lettre quoi.
Le 7 novembre.
Ouais. 7 ans avec Fragile.
Avec Fragile exactement.
Exact.
Les cousins.
Les cousins. Alors côté scène rock français, justement on parlait de Fragile. Alors vous avez différents projets, Flipper, Steel, Théo. Alors en dehors de ceux-ci, quels sont ceux que vous souhaiteriez mettre en avant?
Bah moi j'aimerais mettre Théo en avant. Hein.
Théo en avant
ouais,
ouais. Ouais, Théo, c'est
parce
le.
Parce qu'on attendait
ouais.
Tous les trois dedans, en
on
fait.
On était tous les trois dedans, ouais.
Oui, Théo, ok. Mais d'autres, en dehors
ah,
de.
Ah,
de...
En dehors de ça, ce qu'on aimerait mettre en avant comme
ouais.
Carnage Picnic.
Ouais, Carnage Picnic qui
joue avec nous
ce soir. Ouais.
D'accord, et que font-ils? C'est quoi leur style?
Alors, c'est très semblable à ce que font. Ce que, dans le style, en tout cas, à ce que font la scène des Tourangeaux de River Staves, donc Stuff Foxes, on pense à Lowland
Housing.
Mosaï, enfin en tout cas
ils
tout.
Ils font leur release avec Sodom et Sagesse.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont très proches en tout cas de toute cette équipe là. C'est les mêmes.
Ouais, le noise un peu hardcore dans le. Ça bave quoi, ça gueule un peu.
Pour le coup, ils ont plus gardé du Psychotic Monks que nous.
Ouais.
Là où nous, on s'est pas mal affranchi de ça, je pense.
Sinon, d'autres projets, je cherche d'autres projets. Freezer Bass et Hooligan,
ouais.
Les copains, ça c'est parisien pour le coup.
Ouais.
C'est magnifique. C'est sorti chez All In Banana aussi. Ouais.
Et parmi les grands groupes de la scène rock française, quels sont ceux dont vous aimeriez faire la première partie?
Je pense Lizzy Strata, moi.
Lizzy Strata, ouais. Je crois ouais. Qu'on est assez d'accord là-dessus, en effet, ouais.
D'accord.
Ouais.
Ok. Et bien sûr, au niveau international, si le matin le téléphone sonne, vous devez partir en tournée.
Moi, si Radiohead,
ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, ils sont en galère. Hein. Même si c'est pour aller en Italie ou au Danemark, on peut prendre un avion.
On prend les frais pour nous. Hein.
On y va
en camion.
Non, ouais. Sinon, en vrai, à l'international, il y a Guy Laben, forcément. Il y a
Idols, Giz.
Ouais, il y a tellement de choses.
King Crawl,
ouais. Encore une fois, King ouais. L'autre jour, je pensais Wonder à un groupe, j'ai oublié Wonder Horse. Il y en a plein en vrai. Hein.
Ouais.
Tous les groupes qu'on kiffe, globalement, s'ils nous appellent, bah, on y va. On pensait à Bedroom aussi. On avait partagé le plateau avec eux à Lévitation. Voilà, ça pourrait le faire. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On manque pas d'idées de groupe où on voudrait faire la première partie, quoi, je crois.
D'accord, ok. Bon, ça serait tardé, on ne sait jamais. Même
ouais, ça pourrait
faire la prochaine tournée en Angleterre, pourquoi pas.
Ouais, moi
pourquoi
j'aimerais pas. Bien faire la première partie de Giz là actuellement.
Mm.
Pour être bien.
Pour être pas mal.
Alors, je vous remercie pour cette interview.
Merci à toi.
Vous avez encore une fois un très bel album.
Merci
voilà,
beaucoup.
Que j'ai hâte d'entendre ce soir défendu sur la Mecca. Vous seriez donc prochainement également au Mama.
Ouais, le 15 octobre à la Boule Noire.
À 13h, j'y serai certainement. Et vous serez le 7 novembre au Shabada avec
exactement.
Fragile. Comme le veut la tradition sur Esla, je vous fais de gros bisous.
Bah merci,
voilà.
De retour, bisous retournés.
Merci à tous les trois, à très bientôt.
À très bientôt.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.